soir. Situation sécuritaire au nord Kivu, plusieurs localités et villages du territoire de Beni sont abandonnés par les populations depuis quelques jours suite à la récurrence des attaques des présumés ADF. La dernière attaque perpétrée par ces rebelles a eu lieu il y a plus d'une semaine contre la localité d'Eringeti où une vingtaine de personnes ont été tuées. Quelle analyse faire de cette situation? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs et surtout à ceux de la partie Beni en province du Nord Kivu.
Gilbert Kambalé, président de la coordination urbaine de la société civile de Beni au Nord Kivu. Monsieur Kambalé, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs.
Jason Stearns, directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York et ancien coordonnateur du groupe d'experts de l'ONU en RDC, on me signale qu'il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Entre temps, mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Adieu. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La situation sécuritaire reste préoccupante dans la région de Beni au Nord Kivu. Cela suite à la récurrence des attaques des présumés rebelles ADF. Il y a 8 jours, la dernière attaque de ces rebelles a causé la mort d'une vingtaine de personnes à Eringeti. Les détails dans cet entretien entre Berry Franklin Luchaka et Martial Papi Mukeba, notre correspondant à Beni. Papi Martial Mukeba, bonsoir.
Bonsoir Berry.
Alors dites-nous, quelle est la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à Beni?
Ces derniers jours, il y a une récurrence des attaques par les ADF des villages et localités du territoire des Beni. Et déjà, plusieurs d'entre eux sont abandonnés par la population. En quittant la cité de Ouidja, chef-lieu du territoire des Beni pour Eringeti, l'on traverse plusieurs villages et localités fantômes. C'est le cas des villages Enamo, Matombo et Maïmoya, où seules une dizaine de personnes y passent la journée avant de se réfugier dans la brousse une fois la nuit tombée. Par contre, les villages de Kisikizi, Mukoko, Kisiki, Kokola, Tungudu, Linzo-Sisene et Opira et sont complètement déserts, les habitants ayant fui la récurrence des attaques et massacres des civils par les présumés ADF. Dans ces villages, celles des militaires FRDC, la main sur la gâchette, ils font les patrouilles des combats tout le long de l'axe Ouidja Eringeti.
Mais est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises par les autorités pour prendre en charge les populations déplacées?
Il faut d'abord préciser qu'au cours de l'attaque de Eringeti, il y a 8 jours, par les présumés ADF, une dizaine de maisons, une trentaine de boutiques et une partie du centre de santé d'Eringeti avaient été incendiées. Conséquence, toutes les activités sont presque aux arrêts dans cette localité, la grande partie de la population ayant fui vers Luna, en province orientale. Les centres de santé est fermé et les malades doivent désormais parcourir une 60 kilomètres pour avoir accès aux soins de santé primaires. Mais jusque-là, les déplacés qui sont la plupart dans les familles d'accueil n'ont reçu aucune assistance de la part des autorités, selon les sources de la société civile.
Mais papy, on sait que la semaine passée, l'aviation de la MONUSCO en soutien au FARDC a pilonné les positions des ADF. Qu'en est-il des opérations militaires?
Selon les sources militaires, les FRDC appuyés par la brigade d'intervention de la MONUSCO poursuivent avec les opérations de fouilles et ratissage dans plusieurs villages et localités du territoire de Beni. Mais à part ces opérations, 5 jours après l'attaque de Eringeti, la justice militaire est en action. L'auditorat militaire des garnisons de Beni enquête sur les infractions des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commises par les présumés ADF à Eringeti. Selon l'auditeur militaire de cette juridiction, ces enquêtes concernent également l'armée régulière sur d'éventuelles négligences des responsables du 312e bataillon de la 31e brigade de FRDC basée à Eringeti pour la protection des civils pendant l'attaque rebelle.
Papi Martial Mukeba, merci et bonne soirée chez vous.
Merci Franklin.
Merci messieurs Martial Papi Mukeba et Berry Franklin Luchaka. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, comment pouvez-vous décrire la situation sécuritaire qui sévit à Beni et ses environs au moment où nous parlons?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord adresser toute ma compassion encore une fois à la population de Beni qui traverse l'un de ces moments les plus durs ces derniers temps parce que en l'espace de 2 mois, eh bien, il y a eu plus de 5 attaques. Alors la première analyse que moi j'ai faite de ça, connaissant bien les débuts des opérations qu'aujourd'hui, c'est que lorsqu'on observe une recrudescence comme celle-ci, c'est que d'abord, un, les bases des rebelles ont été totalement détruites par les forces armées, c'est que ces gens-là n'ont plus de médicaments, ils n'ont plus de nourriture, ils n'ont plus même de munitions. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à la différence des opérations antérieures des rebelles qui venaient égorger les populations, ils s'attaquent aux structures sanitaires pour tenter de s'approvisionner en médicaments. Deux, ils s'attaquent aux positions militaires, ce qui n'était pas le cas, pour tenter de voir s'ils peuvent encore avoir quelques munitions, de manière à se refaire une petite santé pour permettre de pouvoir continuer les opérations. Donc ça, c'est la première analyse que j'ai faite. Mais c'est sur ce qui s'est passé pratiquement à Eringeti. Je crois que la réaction de la partie gouvernementale a été rapide parce que le dimanche 29 novembre ont eu lieu ces attaques-là et directement le mardi, le gouvernement provincial s'est déplacé sur le terrain, bénéficiant de la présence du ministre d'État qui était dans la région pour essayer un peu d'évaluer très rapidement la situation, avoir un bilan définitif sur ce qui s'est passé pour que nous proposions à l'autorité centrale d'autres mesures urgentes qui devraient être prises. Donc je crois qu'au stade actuel, en dehors de ce que le journaliste a pu décrire tout à l'heure, il y a déjà un petit retour de confiance parce que la cité de Eringeti est tenue par nos forces armées. Les populations qui avaient fui vers Ndalia dans la partie de l'Ituri, les unes commencent à venir voir ce qui se passe. La preuve, c'est que dans le marché d'Eringeti de ce lundi, hier lundi, eh bien, il y a eu quand même un engouement des populations qui sont venues voir si elles peuvent déjà rentrer, étant donné que la situation commençait à reprendre petit à petit. Voilà les petits tableaux que j'ai peints en ce moment et que je suis prêt à compléter par d'autres questions.
Monsieur le gouverneur, par rapport à la situation au tuerie d'Eringeti, avez-vous un bilan définitif?
Oui, les bilans que je pourrais éventuellement donner aujourd'hui, si j'ai entendu parler de 20 personnes, non. Je crois que, la main au cœur, les gens d'Eringeti me suivent. Les bilans qui ont été fournis actuellement, que la délégation a noté, fait état de 8 personnes au total qui ont été tuées et 12 rebelles qui ont été tués. C'est peut-être ce qui fait que les gens parlent de 20, mais on n'a pas tué 20 personnes civiles à Eringeti. Il y a eu 8 personnes qui ont été tuées, dont 5 ont été retrouvées dans l'hôpital d'Eringeti et 3 civils ont été retrouvés ailleurs. Mais les 12 corps des rebelles ont été montrés à la population et c'est la première fois que la population de la partie de Beni a vu 12 cadavres de rebelles parce que les autres opérations s'effectuaient en profondeur du territoire de Beni et la population n'avait jamais eu l'occasion de voir les corps de rebelles, ce qui créait un peu le doute au sein de la population pour savoir si réellement il y avait des rebelles qui attaquaient. Mais pour la première fois depuis le 2 janvier 2014 à aujourd'hui, eh bien, nos forces armées ont été à même de voir, de montrer à la face du monde les 12 corps de rebelles constitués essentiellement des EDF Nalou qui font la terreur dans cette partie. Et au niveau, sur le plan du bilan matériel, nous avons noté effectivement que tout l'hôpital, la partie administrative a été détruite. Ce n'est pas l'ensemble de l'hôpital, parce que les restes des bâtiments ont subi quelques petits problèmes. On doit évaluer et voir comment on doit revoir la situation. C'est au niveau des bâtiments des populations où 40 boutiques ont été défoncées. Et tous ces événements sont déroulés dans la cité d'Eringeti parce que la base militaire est située à quelques mètres de la cité où effectivement les rebelles ont tenté de fixer nos militaires pour que les opérations se déroulent sur une colline en profitant effectivement à cette sorte d'attaque à l'arme lourde sur la position militaire pour piller l'hôpital, pour incendier les maisons. Parce que je peux se dire, comment on a à la fois incendié l'hôpital, incendié les maisons, où étaient les militaires? C'est parce que les militaires ont été attaqués, fixés sur leur position, quand les rebelles qui se venaient avec des troupes, des transporteurs, étaient en train effectivement de s'attaquer à la ville. Voilà globalement la situation telle qu'elle se présente à Eringeti actuellement.
Monsieur le gouverneur, avant que je ne donne la parole aux autres interlocuteurs, il y a le général Jean Bayo, commandant intérimaire des forces de la MONUSCO, qui a déclaré récemment que pour semer la confusion dans les esprits, l'ADF opère complètement en uniforme FRDC ou complètement en civil, et aussi ce groupe armé se mêle à la population et peut même faire
peut même éventuellement s'imbriquer dans des opérations conduites par les forces congolaises, avait-il indiqué. N'est-ce pas là la description d'une stratégie très complexe qui donne l'impression que l'on est devant un monstre à plusieurs têtes et difficile à achever?
Oui, on est devant un monstre, bien sûr, mais je dois dire à l'opinion, parce que votre émission est également pédagogique, le territoire de Beni a 4 chefferies, c'est-à-dire Benimbao, Watalinga, Rwenzori et Bashu, et aujourd'hui, le problème est localisé dans un seul secteur, le secteur de Benimbao, qui compte à lui seul 4 groupements. Mais aujourd'hui, avec le travail qui a été abattu par nos forces armées, le problème n'est plus dans les 4 groupements, le problème reste uniquement dans le groupement de Bambou Bakisiki, avec une partie dans le groupement de Batangi Mbao. Donc, si vous faites une évaluation de toutes les opérations depuis le début jusqu'à aujourd'hui, on sent que la puissance des feux de nos forces armées est en train de réduire le problème jusqu'au sein d'un groupement presque, et je crois qu'avec la conjugaison des efforts des Nations Unies à travers la brigade d'intervention qui se sont jointes effectivement au FRDC, le groupement là n'est pas à être sécurisé comme Merci. Les autres l'ont été par les opérations qui se sont déroulées avant. Je crois que c'est de cette manière que nous devons apprécier la situation de terrain Merci. Au lieu que les gens n'en profitent pour faire croire à toute l'opinion qu'il n'y a jamais eu une seule action de nos forces armées ou du gouvernement qui a été menée pour essayer un peu d'aider nos populations qui sont en souffrance, parce que beaucoup de politiciens cherchent à récupérer la situation
Merci,
pour
chercher
à montrer que c'est eux qui ont de la compassion ou de la pitié envers les populations, plus que nous qui avons le mandat officiel de cette population.
Merci, monsieur le gouverneur. Révérend Gilbert Kambalé, président de la coordination urbaine de la société civile de Beni au Nord Kivu, vous qui êtes sur place, comment vous vivez cette situation, cette énième tuerie perpétrée par les ADF? Révérend Gilbert Kambalé? Voilà, je crois qu'on a perdu, on a quelques difficultés avec sa ligne. La réalisation va tenter de le retrouver. Jason Stearns, bonsoir, vous êtes en ligne?
Oui, bonsoir.
Vous êtes directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York, également ancien coordonnateur du groupe d'experts de l'ONU en RDC. Vous venez de suivre le gouverneur Julien Paluku qui dit qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis sur terrain et que toutes les bases des rebelles ont été complètement détruites. C'est pourquoi ils s'attaquent aux hôpitaux et aux camps militaires. Est-ce que vous partagez cette analyse?
D'un côté, oui, parce qu'il est vrai que les FARDC, ils ont mené quand même beaucoup d'efforts, surtout au début des opérations Sokola, en 2014, contre les ADF. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut apporter un complément. C'est-à-dire que nous avons des chercheurs qui sont basés sur le terrain, qui ont interviewé plus de 100 personnes, y inclus beaucoup de victimes de ces massacres. Et il est assez clair pour nous que ce n'est pas seulement l'ADF qui est impliqué dans les massacres. Qu'il y a des autres forces qui sont impliquées dans les massacres, ça se recoupe à partir de plusieurs témoignages. Donc je pense qu'il est important à ce stade de pas seulement renforcer les actions militaires contre les ADF, qui sont aussi impliqués dans les massacres, c'est sûr, mais aussi de renforcer les recherches et investigations par rapport aux autres participants à ces massacres. Là, il y a la possibilité d'une connivence, d'une complicité des FARDC aussi, ce qui est signalé aussi, pas seulement par nous, mais aussi par les groupes d'experts des Nations Unies qui ont travaillé sur la question, y inclus par le rapport parlementaire qui est congolais, qui indique qu'il y a une complicité passive des FARDC qui souvent n'ont pas été en mesure de poursuivre ou n'ont pas réagi à temps quand les massacres avaient lieu. Donc je pense que il n'y a pas seulement les actions militaires contre les ADF comme solution, il y a des autres pistes qu'il faut aussi exploiter.
Jason, il y a le général Jean Bayo, commandant intérimaire des forces de la MONUSCO, qui a déclaré mercredi 2 décembre dernier, au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies, que le groupe ADF a un caractère terroriste et compte certainement en son sein des éléments venus d'ailleurs dont le mode opératoire n'est pas celui en cours habituellement en RDC. Est-ce que c'est à cela que vous voulez faire allusion quand vous dites qu'il y a d'autres forces en plus des ADF?
Non, pas nécessairement, parce que là, je pense que vous évoquez la complicité ou la collaboration avec certaines forces terroristes ou djihadistes venues de l'Afrique de l'Est, notamment le Shabab, par exemple, qui sont souvent cités en de collaboration avec l'ADF. C'est une hypothèse qui est souvent évoquée, surtout au niveau local, et surtout par le gouvernement congolais, mais qui n'a jamais été prouvée. C'est-à-dire que le groupe d'experts sur le Congo des Nations Unies a essayé de prouver cette hypothèse. Ils n'ont jamais su le faire. D'ailleurs, ils ont dit que jusqu'au moment, il n'y a aucune preuve que les Shabab aient une collaboration officielle ou étroite entre les Shabab et les ADF. Et d'ailleurs, si vous comprenez, si vous analysez bien le groupe ADF n'a pas les mêmes prétentions que les autres groupes djihadistes en Afrique, qui sont très publics, qui ont des porte-parole, qui ont des sites web, etc., qui ont des ambitions d'œuvrer dans le public pour des fins djihadistes. L'ADF est un groupe qui est assez réclus, qui est un groupe qui n'a aucune prétention djihad mondial comme les autres groupes djihadistes en Afrique de l'Est, mais qui aimerait créer une sorte de paradis dans le massif de Rwenzori avec le Congo. Et donc, c'est assez différent que les autres groupes. Donc, même s'il y a certains modes opératoires, par exemple des bombes improvisées qu'on a retrouvées à plusieurs reprises à l'est du Congo, pour l'instant, il n'y a aucune preuve, ou il n'y a pas vraiment assez de preuves, je pense, par rapport à cette hypothèse. Ce que moi, je suis en train d'évoquer, ce sont la coloration des autres groupes armés congolais dans les massacres. Et là, nous avons des preuves, qui incluent des preuves, des témoignages des survivants de ces massacres, mais aussi des témoignages au sein de ces groupes armés. Nous allons publier notre rapport. Je ne vais pas aller en profondeur par rapport à nos contingents, mais nous allons publier notre rapport là-dessus dans quelques semaines.
Alors, il y a Antipas Mboussanyamouissi, président du RCD-KML, qui intervenait le 3 décembre dernier sur Radio Okapi, qui s'est demandé notamment comment l'identité des auteurs de ces massacres contre les populations civiles n'est toujours pas connue, alors qu'on enregistre des tueries depuis une année. Avez-vous l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de recherches sur terrain de la part des officiels congolais pour donner une image, un visage à ces tueurs?
Exactement. Donc, je pense que l'ADF, qui ont certainement participé à ces massacres, ils sont impliqués dans ces massacres. On a tout le monde maintenant à hausser le drapeau de l'ADF et en train de dire que c'est l'ADF qui perpète ces massacres. Et la discussion, le débat se termine par là. On cherche jamais à investiguer plus profondément qu'est-ce qui se passait. Imaginez-vous que ce sont les massacres les pires au Congo depuis la fin de la guerre, depuis les accords de Saint-Denis, qui sont les pires massacres qu'on a vécu à l'est de la RDC. Et jusqu'à l'instant, il n'y a aucune investigation officielle par rapport à ces massacres, ni côté Nations Unies, ni côté du gouvernement. Et donc, je pense que compte tenu de l'ampleur de ces massacres, on compte plus de 600 morts depuis octobre 2014, je pense qu'il vaut vraiment la peine. Il est de la responsabilité et de l'État congolais et des Nations Unies de mener une vraie investigation par rapport à ce qui se passe. Alors, je suis content, en suivant votre mission tout à l'heure, que le tribunal militaire, le procureur militaire de Béni est en train de mener des investigations aussi au sein des PARBC à cause de leur inefficacité contre les ADF. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction, mais je pense qu'il faut avoir beaucoup plus parce que on se demande comment un groupe qui est estimé d'être entre 200 et 300 soldats peut perpétrer des massacres répétés depuis maintenant plus d'un an dans ce territoire sans être démantelé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Et comme vous dites, il faut avoir plus de recherches.
Jason, il y a également plusieurs observateurs qui évoquent la piste des complicités au niveau des populations locales. Quelle est votre perception par rapport à cette analyse?
Je pense que c'est du côté qui est justifié. Ce que nous avons trouvé sur le terrain, c'est qu'il est possible qu'il y ait des gens qui ont des comptes réglés entre eux, des conflits coutumés par exemple, qui ont utilisé les massacres perpétrés par les ADF pour régler leurs propres comptes. C'est-à-dire que il y a du côté les massacres perpétrés par les ADF, mais de l'autre côté, il y a les autres forces, les milices locales qui pourraient être impliquées aussi là-dedans, qui cherchent à régler les comptes entre eux et puis blâment l'ADF. C'est certainement une possibilité très plausible. Nous aussi, nous avons trouvé des preuves par rapport à cela. Et une piste à suivre aussi.
Et donc, je signale que vous avez tout à l'heure dit que cela figure dans un rapport que vous allez récemment publier.
Oui, on va publier notre rapport dans le mois prochain. On est en train de terminer le rapport actuellement. Cela aussi, j'hésite un peu à donner toute une conclusion parce que le rapport n'est pas encore fini.
Merci.
En train de raffiner et de peaufiner le rapport actuellement. Mais bientôt, on va le publier. Et là-dedans, vous allez aussi trouver un argument beaucoup plus nuancé de ce que je viens de dire.
Merci, Jason, de nous donner déjà un avant-goût de ce rapport. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Gilbert Kambalé, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Vous êtes président de la coordination urbaine de la société civile de Béni au Nord Kivu. Vous qui êtes sur place, comment vous vivez ces tueries?
Merci beaucoup pour la parole et pour l'invitation. Je tiens à saluer notre gouverneur, M. Jason, qui est l'expert des Nations Unies. J'aimerais faire juste un bref contexte. Depuis le début de ce massacre, comme vous le savez, c'est depuis le 2 octobre 2014 que ces événements malheureux ont commencé. Et à ce jour, d'après notre monitoring de la société civile, on est à peu près à 600 personnes massacrées. C'est vraiment notre désarroi et nous sommes vraiment en train de pleurer ici, comme vous le savez. Et nous reconnaissons les efforts fournis par le gouvernement, par la MONUSCO et également les pertes en hommes, de troupes, mais aussi au travers de la population. Les 600 dont je parle sont de populations civiles qui ont été tuées particulièrement. Et donc sur les 600, jusqu'à ce jour, 13 mois après, si nous faisons juste une moyenne, il y a à peu près 45 personnes par mois, 11 personnes par semaine et 2 personnes par jour. Donc vous comprenez notre désarroi. D'autre part, donc, nous pouvons dire qu'on est en face d'une typologie, c'est-à-dire les faits, les événements, les personnes et même le mode opératoire est tout à fait le même. Donc, en dehors de cela, c'est vrai qu'il y a à peu près 37 850 âmes qui sont en errance et en déplacement. Et hors de cela, nous avons également les zones de santé de Ouidja. Nous pouvons constater qu'il y a beaucoup de centres pratiquement qui ont fermé sur une vingtaine. Par exemple, nous pouvons prendre Totolito, Liva, Apeti Nassana et autres qui ont fermé. Et pour ce qui concerne la situation récente sur Eringeti, le gouverneur a raison. Il n'y a pas une vingtaine comme vous l'aviez dit. Mais d'après le monitoring de la société civile, on est à peu près à 38 personnes tuées, y compris les assaillants et autres. Et donc, c'était un étonnement, comme le gouverneur l'a dit, que certains puissent voir le corps, pour peut-être la première fois pour certains, des assaillants.
Réverend Kambalé.
Ce dernier cas, nous pouvons parler également de cette situation où des maisons ont été brûlées, et également des magasins.
Réverend Kambalé.
Et là, nous constatons que c'est vraiment une situation qui est critique pour les hommes d'affaires.
Réverend Kambalé.
Il y a des délégations qui ont vu l'administrateur du territoire, notamment les journalistes et même les commerçants, qui ont menacé aussi de quitter le milieu s'il n'y a pas la situation qui s'améliore.
Gilbert Kambalé.
Et donc cela a mis à mal la schématologie, c'est-à-dire la manière de créer les richesses, est vraiment un problème pour les commerçants de la petite localité.
Gilbert
voilà
Kambalé.
Donc en bref ce que je peux dire, sans compter les écoles qui sont fermées et les autres qui ont des pléthores maintenant.
Gilbert Kambalé.
Cela fait un problème très sérieux, une catastrophe humanitaire.
Bien Gilbert Kambalé, est-ce que vous me suivez?
Comme le gouverneur l'a dit, a envoyé 1000 tonnes.
Révérend Gilbert Kambalé, est-ce que vous me suivez?
La population qui est...
Voilà, il ne me suit pas. J'aurais bien voulu lui poser quelques questions. Révérend Kambalé, est-ce que vous me suivez? Voilà, c'est un tableau désastreux que vous venez de présenter là, mais pourquoi selon vous l'on ne parvient pas à éradiquer ces rebelles malgré toutes les opérations militaires sur terrain?
Bon, c'est ça un peu notre préoccupation, nous tous. Nous sommes en face d'une situation que je qualifierais d'absurde, d'irrationnelle, parce que, vous savez, quand on parle d'absurde, c'est-à-dire, c'est ce qu'en principe l'homme veut, mais le monde le lui refuse. Et je suis content parce que nous avons été avec le chef de la MONUSCO, M. Maman Sidikou, qui a pris un exemple tout à fait biblique. Comme moi, je suis homme d'église, et aussi théologien de surcroît, il a pris l'exemple de Thomas. Vous savez, il était l'un des apôtres de Jésus. Il a dit, je sais que vous êtes comme des Thomas maintenant à bénir. Et c'est ça la réalité. Donc, la population est tout à fait sceptique. Donc, il faut des actions qui puissent amener la population à croire que nous pouvons sortir de cette situation. Et donc, en pragmatique, il faut reconnaître que dès qu'il y a un concept quelconque ou un énoncé dire qu'on va mettre fin à cette situation, alors il faut voir cela sur trois plans. Sur le plan, n'est-ce pas, syntaxique, sur le plan sémantique, mais aussi sur le plan pragmatique. Et c'est cela qui peut convaincre aujourd'hui vraiment la population. Et j'ai aimé encore une fois les chefs de la MONUSCO qui disaient ce soir, c'est là au cas de notre crédibilité. C'est ce qu'il a dit à Goma. Et donc ce que la population attend, et qu'on puisse renforcer l'OFRDC et aussi des actions communes avec la brigade d'intervention pour qu'on puisse mettre fin à cette situation.
Révérend Gilbert Kambalé, il y a Ramsès Ramazani, Salé de Bounia, qui dit il faut une bonne et sincère autopsie de la part de la population de Béni, car d'emblée, cette situation persiste car elle est soutenue par les fils et filles de cette partie du territoire. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Oui, bon, je respecte justement ses propos, mais j'aimerais lui dire ceci, que au moment où nous parlons, il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes. Parce qu'il y a des moments où la population indique et montre à nos voyants par décès où sont les ennemis. Mais alors, ce ne sont pas les personnes qui ont montré qui iront là-bas, mais ce sont plutôt les troupes qui peuvent aller jusque sur ces lieux-là. Et donc, la population fait sa part. S'il y a des fils égarés, ils sont là à titre privé, mais on ne peut pas dire que c'est toute la population qui sont en train de faire ce travail macabre. Parce qu'on ne peut pas quand même souhaiter voir comment est-ce que les gens sont en train de mourir, plus de 600 personnes. Et quand les autorités sont passées ici, même disons au niveau régional, sous-régional, je me rappelle quand le professeur Tumbalo a été passé ici.
Merci révérend Gilbert Kambalé. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Monsieur le gouverneur, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de la province du Congo central.
Datimbuku, depuis Matadi, au Congo central. Notre gouvernement nous donne l'impression d'avoir d'autres priorités que la sécurité de sa population. Sinon, nous aurions déjà remarqué une amélioration significative de la situation sécuritaire dans la région de Beni. Il est temps que nos autorités comprennent que les stratégies qui sont mises en œuvre pour résister contre les ADF ne payent pas. Maintenant, nous devons les remplacer par celles qui sont plus percutantes.
Réaction, monsieur le gouverneur.
Oui, la réaction simple, c'est que quand on est au pouvoir, quand on n'est pas au pouvoir, et que les malheurs arrivent à une population, ceux qui ne sont pas au pouvoir donnent l'impression d'avoir de la pitié et de la compassion. C'est ça ce que moi je note de la gouvernance depuis que j'ai exercé un peu le pouvoir d'État. C'est-à-dire, quand on tue les gens à Goma, à Beni et partout, les premières personnes qui souffrent dans leur fort intérieur, ce sont les autorités parce qu'ils ont un bilan à présenter devant l'opinion à la fin de leur mandat. Donc je voudrais que toute l'opinion sache que ce qui se passe à Beni ne peut nullement être dans la complicité de l'autorité parce qu'en tant qu'autorité politique, il n'y a personne qui gagne lorsque sa population est en train de mourir. Au contraire, le fruitement de la popularité de l'autorité est en train de se constater lorsque ces choses arrivent. Deuxième chose, lorsqu'il se passe des cas de tuerie et de massacre dans une localité comme Eringeti, il faut que les gens sachent que nous perdons des dizaines de militaires pour montrer que ce n'est pas une complaisance.
Ce n'est pas le fait que l'autorité voudrait voir les populations tout le temps en train de tomber sous le champ des batailles et faire la joie des autorités. Il y a des militaires qui se sacrifient, qui se privent, qui tombent chaque soir. Donc je voudrais vraiment que les Congolais commencent à analyser très froidement les questions de guerre. Et malheureusement, les politiciens congolais, au lieu que nous puissions nous associer tous ensemble, population, politiciens, armées, pour faire face à ces défis ici, on sent une sorte de bande de politiciens en train de faire du plaisir à constater ce qui se passe sur le terrain et se refaire une santé politique. Même les personnes qui ne parlaient plus sont comme un peu ressuscitées lorsqu'il y a eu des attaques à Beni, lorsqu'il y a eu des morts, pour chercher de se faire une sorte de propagande politique quand il y a des morts. Je crois que cette manière, pour les politiciens congolais et pour certains acteurs politiques de considérer leur population, c'est une manière de cracher sur le peuple de qui tous nous tirons le pouvoir. Voilà pourquoi, pour moi, l'interpellation que j'ai faite, c'est de dire, dans la tradition du Nord Kivu, lorsqu'un serpent entre dans la maison, s'il y a des querelles entre hommes et femmes et les enfants, l'homme, la femme et les enfants cessent d'abord avec leurs querelles, ils s'attaquent au serpent qui entre dans la maison. C'est cela l'invitation que je formule à l'endroit de tous les acteurs politiques et du pays et de la province du Nord Kivu.
Merci, monsieur le gouverneur Jason Stearns. Il y a pour vous cette réaction qui nous vient de la province du Sud Kivu.
Bénédiction Minigo de Bukavu dans la province du Sud Kivu. C'est vraiment avec un grand regret que nous constatons l'indifférence du pouvoir en place face à cette boucherie humaine installée au Nord Kivu. Il y a de cela une année durant. Aussi, nous condamnons amèrement cette politique de deux poids deux mesures affichée par la communauté internationale qui semble être préoccupée au plus haut point par des actes criminaux vécus dans des États forts au détriment de celles vécues dans des États en développement. Le cas récent de la France en est un exemple éloquent.
Jason, comment vous recevez cette réflexion?
Je ne sais pas si j'ai bien compris, il voulait parler de la complicité de la communauté internationale ou l'inaction de la MONUSCO, c'est ça?
En fait, il parle, je vais essayer de relire, il dit c'est avec un grand regret que nous constatons, il parle de l'indifférence en fait et du pouvoir et du gouvernement de Kinshasa et de la communauté internationale face à ce qui se passe à Beni. Et si c'était dans d'autres pays, on a vu le cas avec la France où il y avait une plus grande mobilisation sur le plan mondial.
Oui, je ne peux qu'être d'accord avec l'auditeur. Je pense qu'il est dommage que certainement du côté de la communauté internationale, mais aussi du côté de Kinshasa, on n'a pas assez fait, je pense. Il faut nuancer. Au début, entre janvier 2014 et juin-juillet 2014, au début des opérations Sokola, l'armée congolaise a fait un grand effort et il faut dire qu'ils ont perdu des centaines d'hommes. On est attaqué contre l'ADF. Donc, au début, on peut certainement pas accuser les FARDC d'être soit en complicité ou bien d'être inactif contre les ADF. Ils ont payé en sang pour ces opérations. Le problème, c'est que après un certain moment, après la mort de Mamadou, après la mort du général Bahouma, on a vu une certaine une pause dans les opérations contre les ADF. Et aussi un manque de ressources. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, il y a un manque de ressources par rapport au paiement des salaires, mais par rapport à la logistique au sein des FARDC. Ce qui a contribué aussi, je pense, à la faiblesse des opérations menées contre les ADF. Donc, je pense que c'est dommage. Effectivement, il faut donner toutes les ressources nécessaires à ces opérations pour qu'ils réussissent, mais aussi, comme j'avais dit avant, il faut recadrer les efforts, pas seulement donner la priorité aux opérations militaires, mais aussi pour mener des recherches pour savoir connaître enfin qui sont ces massacreurs, est-ce que c'est seulement les ADF ou s'il y a des autres outils là-dedans. Par rapport à la MONUSCO, il y a un grand problème qui se pose pour la MONUSCO, parce que la MONUSCO est censée collaborer avec les FARDC, mais pourtant, depuis janvier de cette année, il y a eu des tensions entre la MONUSCO et les FARDC à cause d'une bagarre autour de la nomination de deux généraux à Goma pour les opérations Sokola 2. Et depuis lors, on a vu au moins au niveau officiel une rupture des relations entre la MONUSCO et le gouvernement. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que le nouveau représentant du secrétaire général est en train d'essayer de renouveler la collaboration entre les deux côtés. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment des opérations conjointes. Ce qu'il y a, c'est parfois des opérations ponctuelles. Vous venez d'entendre au début de la mission, par exemple, d'une attaque d'hélicoptère que la MONUSCO a menée après l'attaque des Rigetti contre l'ADF. Il y a aussi avant, plutôt pendant cette année, il y a quelques mois, il y avait une collaboration au niveau logistique, c'est-à-dire que la Monusco fournissait une aide en nourriture, en eau, en carburant, on parle des faits, parce qu'ils ont manqué. Mais aujourd'hui, je pense que ce moment-là, c'est même cette collaboration a cessé. Donc, il y a un problème pour la Monusco parce que de leur côté, ils ne veulent pas mener les opérations unilatérales contre les adhérents. Les opérations sont risquées et pas aussi efficaces comme les opérations conjointes. De l'autre côté, il y a un problème politique qui se pose entre la mission et le gouvernement.
Merci Jason Stearns. Pasteur Gilbert Kambalé, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Alfred Moutez de Mera à partir de Goma au Nord Kivu. Pourquoi les autorités nous disent à travers les médias que la guerre contre les ADF NAL arrive à sa phase de ratissage alors que la guerre est encore longue? À mon avis, l'état-major général devrait venir s'installer au Nord Kivu pour pouvoir suivre de près ses opérations contre les ADF NALU et d'autres groupes armés à l'est de la RDC.
Pasteur Gilbert Kambalé, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion?
Je pense que c'est ça notre souhait, parce que vous vous rappellerez encore, il y a quelque temps, où nous avons pu organiser des journées d'immense illimité parce qu'on voulait que, par exemple, le ministre de la Défense vienne s'enquérir, le chef d'état-major. À son temps, nous avions même parlé du premier ministre parce qu'il doit quand même venir, parce que c'est sa population également qui est en train de souffrir sur le plan économique aujourd'hui. La province est exsangue et donc nous pensons que la partie nord ici, Beniville, territoire, devait être carrément considérée comme une zone qui est en souffrance et que on puisse voir comment considérer la situation des hommes d'affaires d'ici. Donc, je crois que cet auditeur a raison et c'est cela notre souhait qu'on puisse quand même renforcer ici. Même s'il y a la brigade d'intervention, nous pensons que la haute hiérarchie militaire de nos forces armées doit venir vraiment s'enquérir parce qu'il faut des forces robustes et des répliques plus aguerries pour mettre fin à cette situation.
Merci, pasteur Gilbert Kambalé. Maman Sidikou plaide pour la généralisation des opérations conjointes MONUSCO et FARDC au Nord Kivu. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC s'est exprimé ainsi hier lors de l'inauguration du tout premier centre de presse du pays. Ouvrage financé par la MONUSCO et implanté au Nord Kivu. Pour lui, ce qui s'est passé à Eringeti ne doit pas se répéter. Maman Sidikou, qui revient d'effectuer sa première tournée dans le Grand Nord, il s'exprime au micro de Bernard Daignan.
Ce qui importe de faire à partir de maintenant, c'est que la RDC et la MONUSCO, en particulier la FARDC, se remettent au travail ensemble. Je crois que c'est notre devoir commun de rassurer davantage les populations. En fait, je suis allé jusqu'à Eringeti. J'ai vu l'hôpital qui a été attaqué par les terroristes de l'ADF. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai vécu personnellement parce qu'ils ont tué des gens sur les hôpitaux. Ils ont tué des enfants de 2 ans. Ils ont tué une infirmière à bout portant. Ils ont brûlé, saccagés, ils ont apporté des médicaments. Je crois qu'il y va de notre crédibilité, gouvernement et MONUSCO, de reprendre les choses en main dans cette zone. Mais la parole doit toujours et avant tout être donnée aux Congolais, parce qu'il y va de leur souveraineté et nous devons respecter cela. Toutes les opérations sont d'abord des opérations de l'armée congolaise avec laquelle nous travaillons. Nous aurons tout notre soutien quand ils le demanderont. Mais nous espérons réellement que nous allons nous remettre tout de suite au travail. Parce qu'il s'agit des populations congolaises dans une zone assez difficile et il n'est pas bon qu'elles se sentent abandonnées.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, est-ce que la généralisation des opérations conjointes FARDC-MONUSCO, telle que le propose Monsieur Maman Sidikou, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, serait-elle l'une des solutions efficaces?
Oui, moi je crois qu'on a vu en 2013, lorsque le M23 est arrivé à son terme, l'efficacité de ces opérations conjointes entre nos forces armées et la brigade d'intervention. Et donc, en tant que gouverneur, je ne peux pas ne pas reconnaître ces efforts conjoints qui ont été menés. Et donc, aujourd'hui, face à ce qui se passe, il est important
que cette poursuite des opérations conjointes se fasse pour davantage de nettoyer les restes des résidus dans ces territoires. Deux, je voudrais quand même revenir un peu sur une question. Lorsque les gens voient des militaires être déployés sur le terrain, ce n'est pas par eux-mêmes, ce n'est pas par leur volonté. Le pays a un commandant suprême qui s'appelle président de la République, le pays a un état-major dirigé et les gens qui sont déployés sur le terrain, que ce soit à Goma lors du M23, que ce soit à Beni contre les EDF Nalou, c'est la volonté du commandant suprême et la coordination bien entendu de l'état-major général. Donc il n'y a pas un militaire qui de lui-même s'amène sur la ligne de front pour commencer à faire ce qu'il veut. Non, tout est coordonné, tout est commandé et les résultats, on doit les mettre bien entendu sur le chapitre d'un travail collégial qui est mené, chapeauté par l'état-major général. De deux, de trois, je voudrais quand même, même si les opérations sont menées de façon conjointe, remercier la population de Beni pour lui demander et pour lui prier de continuer à collaborer avec les forces armées, à collaborer avec la MONUSCO, parce que c'est dans cette synergie qu'ensemble, nous allons bouter l'ennemi dehors. Et je ne doute pas qu'un jour, effectivement, merci, on va mettre fin à ce phénomène. Parce que lorsqu'on voit la fréquence des tueries à partir du mois d'octobre 2014 à aujourd'hui, Jebel Kambale a parlé d'une moyenne de 2 morts par jour. Mais il y a eu un moment où nous comptions 50 morts par jour lorsque les opérations ont commencé. C'est avec la puissance de nos forces armées qu'aujourd'hui, on peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois merci, sans qu'on note un cas de tuerie dans un village. Donc, je crois
et en guise de conclusion, que le gouverneur?
En guise de conclusion, je voudrais vraiment inviter la population à poursuivre sa collaboration avec les forces armées et la MONUSCO. Et ensemble, nous vaincrons l'ennemi parce que il ne peut pas nous vaincre comme gouvernement. Merci. Nous allons assurer la sécurité à cette population qui nous soutient tant.
Jason Stearns, tout à l'heure vous évoquiez les difficultés entre la MONUSCO et les FARDC. La généralisation des opérations passe-t-elle pour être l'une des solutions?
Je pense qu'une des solutions, absolument. Je pense qu'il y a un côté militaire, un côté politique qu'il faut aborder. Un côté militaire, absolument. Je pense que le renforcer la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO, on a vu les résultats que ça peut donner lors de la défaite de l'M23 en 2013. Donc absolument, je pense que c'est parmi les choses, mais c'est pas la seule chose, je pense. Nous sommes à 13 mois, comme M. Gilbert l'a dit, à 13 mois du début du massacre, nous sommes à plus de 600 morts, et jusqu'aujourd'hui, je pense qu'on n'arrive pas finalement à comprendre exactement ce qui se passe autour de Beni. Je pense qu'il est temps qu'on prenne un peu de perspective, qu'on comprenne exactement ce qui se passe, et je pense qu'il joue de responsabilité et de l'exécutif congolais, et des FARDC, mais aussi du Parlement, de mener les investigations. Le Parlement a, je pense qu'ils ont bien fait, ils ont envoyé une équipe, si je me rappelle bien, en novembre passé, il y a un an, ils ont mené une équipe là-bas pour savoir un peu ce qui se passe, ils ont gratté un peu, ils ont trouvé quelques éléments, mais c'était insignifiant. Je pense qu'il faut avoir un travail fouillé pour savoir exactement ce qui se passe. C'est la première fois que moi, depuis 15 ans en RDC, il y a des massacres à une telle envergure sans savoir qui exactement sont merci, les perpétreurs de ces massacres.
Merci Jason Stearns. Pasteur Gilbert Kambale, en guise de conclusion, quel appel ou quelle recommandation formulez-vous à l'endroit des autorités qui vous suivent en ce moment?
Merci beaucoup. J'imagine que les autorités doivent aider la population à refaire leur confiance. Parce qu'il y a ceux qui ont perdu pratiquement leur confiance. Je me rappelle quand le ministre de l'Excellence Mouyet, j'étais ministre de l'Intérieur, il était de passage ici et il avait dit un mot qui nous avait vraiment touché au cœur pour dire que c'est quand même une humiliation quand ces rebelles continuent à tuer la population devant nos FARDC, devant la brigade d'intervention, parce que la MONUSCO a trois priorités, garder les civils, suivi merci, des accords d'Addis Abeba, et enfin la stabilisation.
Merci, révérend Gilbert Kambale. C'est par vous que nous terminons cette émission. Réalisation Guy Maté, équipe rédactionnelle Kélin Kouté, Berry Franklin Luchaka, supervision Julien Nyamouigny, présentation et coordination Alain Hiroum-Mouchige. Merci de votre attention. Au revoir.